La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. C'est une histoire qui commence sur notre planète il y a près de 4 milliards d'années, l'apparition de la vie. Et depuis la toute première cellule dans l'océan primordial, le vivant n'a cessé de se complexifier jusqu'à la naissance de notre humanité. Éric Carcentier est biologiste, passionné de voile, et cette précision est loin d'être un détail, car à l'instar de Darwin sur son bateau, le Beagle, Éric Carcentier a fait avancer son domaine de recherche en sillonnant également les mers du globe, avec l'expédition Tara, afin de réaliser une collecte sans précédent de micro-organismes marins. Il publie aux sources de la vie de la cellule à l'être humain chez Flammarion, et il est mon invité dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une lune gigantesque qui tourne très très loin de la Terre.
Et c'est sûrement la première exolune que viennent de détecter des chercheurs new-yorkais de Columbia. À 8000 années-lumière de nous, on vous présente Kepler 1625b dans un instant.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous scientifique de France 5 avec un documentaire consacré ce soir au Titanic. Fanny Boyon réalise aujourd'hui cette tête au carré.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Éric Carcentier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va plonger avec vous dans quelques minutes aux sources de la vie, rien que ça, à l'occasion de la sortie de votre ouvrage chez Flammarion. L'histoire de la vie, c'est quoi finalement? C'est surtout l'histoire d'une complexification, c'est ce que vous essayez de montrer dans le livre.
Oui, c'est ça. En fait, j'essaye de montrer, c'est que quand je dis les sources de la vie, ça ne veut pas dire l'origine de la vie. Ça veut dire les principes qui sont à la base de l'organisation du vivant, comme il est aujourd'hui et comme il s'est développé au cours des milliards d'années qui nous ont précédés.
Ouais, mais tout a commencé dans la soupe primitive.
Dans la soupe primitive.
Et on va raconter ensemble cette histoire, au cours de laquelle d'ailleurs on va croiser des grands noms de la science et de la biologie. Et les auditeurs vont nous rejoindre pour en discuter avec les messages sur franceinter.fr. À tout de suite. Et Axel, c'est une très grosse lune qui est aujourd'hui à la une de la science.
Oui Mathieu, et cette fois-ci c'est peut-être la première exolune que viennent de détecter des chercheurs de l'université de Columbia.
Alors c'est-à-dire?
En fait, la découverte a déjà été annoncée deux fois et démentie deux fois par le passé. Mais là, les données collectées de cette gigantesque lune Kepler 1625b ont l'air plutôt sérieuses. Voilà. Mmh. On commence cette peut-être découverte avec vous, Franck Celsis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au LAB, c'est le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu. Alors, on l'annonce, cette découverte, où on se retient encore un peu, votre avis à vous, c'est quoi?
Alors, il n'y a pas d'urgence, on peut se retenir encore un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que si on a bien affaire au système qui est déduit de ces observations, donc une planète géante de la taille de Jupiter avec une lune, donc un satellite naturel de la taille de Neptune qui
très,
tourne
très
autour, voilà, tout ça très gros, qui tourne autour d'une étoile très lointaine à 8000 années-lumière, eh bien on peut prédire les observations à venir, et notamment on peut prédire les prochaines observations du passage de ce couple devant son étoile en mai 2019 et aussi pour les transits suivants, et donc on aura une confirmation. Mais déjà les données en possession sont déjà assez convaincantes, je dirais.
Alors, 8000 années-lumière, c'est très très loin. Pourquoi est-ce qu'on va la chercher si loin, cette première exolune?
Alors, donc, pour comprendre comment on les trouve, ces exolunes, il faut revenir à la méthode des transits, hein, qui est la méthode la plus fructueuse jusqu'à présent pour trouver les exoplanètes, notamment avec le télescope spatial Kepler de la NASA, qui a trouvé la grande majorité des exoplanètes. Donc, que fait Kepler? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 4 ans, entre 2009 et 2013? Il a observé 150 000 étoiles, avec une très très grande précision. Il a mesuré leur luminosité toutes les demi-heures. Et l'idée était de découvrir des planètes par ce biais-là. Alors on sait depuis, grâce à Kepler, que la majorité de ces 150 000 étoiles observées ont des planètes, et une petite fraction de ces planètes sont bien orientées et passent régulièrement à chaque orbite devant leur étoile, provoquant une petite baisse de luminosité qu'on appelle un transit. Donc ce transit, dans la majorité des cas, il revient de façon extrêmement stable, périodique, à chaque année de la planète, à chaque orbite. Et voilà, ça nous a permis de détecter les planètes, de connaître leur période orbitale, leur distance à l'étoile, leur rayon. Et dans certains cas, ce transit, il peut être un peu irrégulier. Il peut arriver de façon non périodique, un tout petit peu en avance, un tout petit peu en retard. Et il y a deux phénomènes qui peuvent causer ça. Le premier, c'est la présence d'autres planètes dans le système. Ça, ça a déjà été observé, ces petites perturbations par d'autres planètes dans le système. Et une autre possibilité, c'est d'avoir une lune. Car dans le cas où on a une planète et sa lune, ce n'est plus la planète qui passe périodiquement, c'est le barycentre, le centre de masse du système qui passe régulièrement. Et parfois, la planète va être un petit peu en avance, parfois un petit peu en retard.
Et si on découvre une lune aussi grosse, c'est parce que c'est les plus visibles alors par cette méthode?
Voilà, en fait, on tablait, disons, dans le système solaire, il y a la majorité des planètes ont des lunes. Ce sont des lunes qui sont assez petites, hein, beaucoup plus petites que la Terre, plus petites que Mars. Les plus grosses ont la taille de Mercure. Ça, c'est quasiment impossible à trouver. Donc, effectivement, on tablait sur l'existence de lunes plus grosses. Et pour le coup, on a été servi, oui. Puisque là, on aurait une lune de la taille de Neptune. Et alors, ce qui permet de confirmer que ces avances et ces retards sont liés à une lune et pas à une autre planète, c'est qu'en plus, comme cette lune est très grosse, on voit ses transits à elle aussi. C'est-à-dire qu'on a deux modèles indépendants qui collent. On a d'abord le mouvement perturbé de la planète qui passe avec des avances et des retards. Et on a aussi, qui correspond avec ce qui est prédit par la gravitation, on a aussi les passages de la Lune qui, elle, révèle son rayon. Donc, alors pourquoi on n'a pas trouvé ça jusqu'à présent? C'est deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, c'est un phénomène tout petit à voir, et là, on l'a vu parce que c'était un cas extrême. Et aussi, c'est parce que la plupart des exoplanètes qu'on connaît sont assez proches de leur étoile et ont des très courtes périodes orbitales. Et en fait, dans ces configurations-là, les lunes ne sont pas stables. On ne s'attend pas à trouver des lunes. Donc, pour pouvoir révéler une lune, il faut une planète loin de son étoile. Et le problème, c'est qu'on en a très peu des transits de planètes qui sont loin de leur étoile. Et c'est pour ça que, dans ces 150 000 étoiles observées par Kepler, pour trouver ça, il a fallu chercher dans les fonds de tiroir, c'est-à-dire à 8000 années-lumière. Mmh. Généralement, on préfère travailler avec des étoiles beaucoup plus proches, beaucoup plus lumineuses.
Il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce que décrivent ces chercheurs, c'est que le système décrit fait penser un peu au film Avatar, parce que c'est une planète tellurique, là, une lune qui tourne autour d'une géante gazeuse. D'un point de vue de l'habitabilité, qu'est-ce qu'on sait de cette grosse étoile alors?
Alors oui, la Lune, si elle a effectivement la taille de Neptune et plusieurs dizaines de masses terrestres, c'est sûrement une planète avec une grosse composante gazeuse comme Neptune. Donc on n'envisage pas trop, mais peut-être qu'on a tort, mais on n'envisage pas trop l'habitabilité de ce type de système. Ce qui est assez intéressant, oui, effectivement, si on avait à la place une planète de type terrestre, avec de l'eau, et ce serait intéressant. Alors il se trouve que cette étoile-là, on n'a pas encore les bonnes caractéristiques, mais elle semble être un soleil très vieux, très évolué, qui est en train de devenir une géante. Donc actuellement, ce système de la planète Kepler 625b et de sa lune est un peu chaud. Il est pas mal plus chaud que la Terre. Mais dans le passé, si on remonte de quelques milliards d'années, il a pu être à peu près à la température de la Terre. Parce qu'en fait, l'étoile est vraiment de type solaire, et la distance entre ce couple planète-lune et son étoile est de la distance Terre-Soleil. Donc dans le passé, si ce Neptune avait été de taille terrestre, on aurait pu dire, oui, mais pourquoi pas habitable? Alors après, si on veut spéculer, imaginer des choses, on pourrait pourquoi pas imaginer que qu'il y ait d'autres satellites dans ce système, d'autres lunes, soit autour de la planète géante qui fait la taille de Jupiter, soit autour de cette lune de taille Neptune, et qui, eux, seraient de taille terrestre et qui ont pourquoi pas été habitables. Mais bon, là, c'est une très grosse spéculation. Mais puisqu'on en trouve des très grosses et qu'il y en a des toutes petites dans le système solaire, ça doit bien exister, les satellites, les lunes de taille terrestre et à des distances habitables. Donc la configuration qu'il y a dans Avatar, même si on peut démontrer qu'elle n'existe pas autour de l'étoile d'Avatar, c'est-à-dire dans le système d'Alpha du Centaure, ouais, pour différentes raisons. Par contre, cette configuration-là risque tout à fait d'exister dans la diversité des systèmes exoplanétaires.
Bon, c'est le monde des géants, visiblement, là-bas, à 8000 années-lumière. Et donc, confirmation, mai 2019, Franck Celsis, hein, c'est ça?
Oui, disons que voilà, avec une nouvelle observation de Hubble en mai 2019. Alors, j'ai cru comprendre que Hubble avait des petits soucis, donc j'espère que c'est pas grave, mais normalement, oui.
Merci beaucoup à vous, merci aux équipes de France Bleu à Bordeaux, et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le plus grand organisme vivant connu de la planète mesure la taille de 350 piscines olympiques et couvre une surface de 10 km². C'est un champignon nommé Amiralia ou Honey Mushrooms, découvert en 1980 dans l'Oregon aux États-Unis. Son gigantesque réseau de mycélium qui couvre des forêts entières s'immisce entre le tronc des arbres et leur écorce pour les parasiter. Grâce à une analyse génétique de ce spécimen hors norme, les chercheurs estiment aujourd'hui qu'il aurait environ 2500 ans. Mesurer la nocivité des composés de la vapeur des e-cigarettes, une équipe de chercheurs du Maryland a voulu connaître les effets à moyen terme de la fumée de ces cigarettes et de la vapeur des e-cigarettes sur des souris. Après 4 semaines d'exposition régulière toutes les 30 minutes, ils remarquent des niveaux d'inflammation et des dommages sur les poumons quasiment similaires entre e-cigarettes et cigarettes, voire plus important d'ailleurs pour les souris soumises à une vapeur contenant des additifs de saveur et des arômes. Les chercheurs concluent à un besoin important d'autres études toxicologiques chez l'homme en particulier. Et puis à Amiens, le robot Max AI va améliorer le tri des déchets. Dopé à l'intelligence artificielle, il permet de supprimer des éléments indésirables sur un tapis roulant installé sur une chaîne de tri de déchets fibreux comme le carton et le papier. Il apprend et écarte à la demande les canettes, les pots de yaourt et les emballages en plastique à une vitesse effrénée d'un geste par seconde. Étant donné le défi autour du tri et du recyclage à l'avenir, aucune baisse d'emploi est à prévoir avec l'arrivée de ce robot, assure l'installateur Veolia pour la ville d'Amiens. Allez, nous partons aux sources de la vie dans un instant. Aluna George avec Superior Emotion.
La tête au carré sur France Inter.
Éric Carcentier, vous êtes notre invité cet après-midi à l'occasion donc de la sortie de ce livre aux sources de la vie, de la cellule à l'être humain, la plus belle histoire jamais écrite, la nôtre. Hein, voilà, c'est le sous-titre de cet ouvrage qui paraît chez Flammarion. Et vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences. Vous avez été directeur scientifique de l'expédition Tara, médaille d'or du CNRS. Et les auditeurs nous rejoignent avec des questions pour vous sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. L'idée de ce livre, on l'expliquait un petit peu tout à l'heure déjà, c'est donc d'explorer de la façon dont le vivant s'est complexifié depuis la toute première cellule. Et vous qui êtes spécialiste justement de la cellule vivante, pourquoi est-ce qu'on précise vivant?
Moi,
une cellule, c'est toujours vivant,
bien
non?
Bien sûr, ouais, c'est toujours vivant. Ouais. Mais c'est un peu, c'est tellement vivant qu'on a envie de le dire,
oui.
Je pense.
Oui.
Ça bouge, c'est vivant, quoi.
Ouais, ouais. Ouais. Alors, quelle différence il faut faire d'ailleurs, parce qu'évidemment, on est dans ce domaine très vaste de la biologie, entre la biologie cellulaire et la biologie moléculaire. Alors, puisqu'on parle des deux là.
En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que la biologie moléculaire, c'est un peu un outil pour comprendre comment le vivant fonctionne, comment les cellules fonctionnent et comment les organes fonctionnent.
On n'est pas à la même échelle, on pourrait
c'est
dire.
C'est pas la même échelle. C'est-à-dire que la biologie moléculaire s'intéresse aux molécules qui constituent le vivant, alors que la biologie cellulaire s'intéresse à la façon dont ces molécules s'organisent pour faire quelque chose qui fonctionne comme un tout.
Ouais.
Parce que le vivant, c'est pas les molécules, c'est évidemment l'ensemble, les molécules qui interagissent entre elles à l'intérieur d'une membrane.
Alors, vous parlez des êtres vivants comme de territoires dynamiques, toujours en mouvement. Mais est-ce que l'on sait justement ce qui est à l'origine de la première animation, de la toute première cellule, lorsque la vie justement a émergé, ce moteur-là au tout départ, ce passage de l'inerte au vivant? Est-ce que la science est en mesure de répondre à la question
non.
aujourd'hui
ouais. Actuellement, on ne sait pas. On a des idées, hein, mais on peut imaginer.
Ouais,
mais on ne sait pas comment ça s'est produit. Pour moi, ça, quelque chose devient vivant à partir du moment où il y a une membrane, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de séparation du milieu extérieur avec quelque chose à l'intérieur, et un métabolisme, c'est-à-dire une activité qui produit de l'énergie localement à l'intérieur. Et puis évidemment la propagation, hein, c'est un peu ça le minimum qu'on peut définir pour un système vivant, c'est ça. Mmh. Donc ça, comment ça s'est produit, c'est là où il y a vraiment une grande question, parce que il a fallu que en même temps des molécules complexes apparaissent, qu'elles soient à l'intérieur d'une vésicule et que tout ça se mette à fonctionner comme un système.
Ouais.
C'est un système, c'est quelque chose qui fonctionne comme un tout.
Hein, donc il fallait plein de conditions particulières.
Il fallait plein de choses, ouais.
Qui à un moment ont été réunies. Pour faire en sorte que ça puisse émerger.
Exactement.
Et ça s'est passé
sur Terre
chez nous.
Et alors, en fait, ça s'est passé... Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a beaucoup d'informations maintenant qui nous disent que ça s'est passé très très vite après la formation de la Terre. C'est environ... La formation de la Terre, c'est à peu près 4,3 ou 4,5 milliards d'années. Et la vie a commencé il y a à peu près 4 milliards d'années, selon les dernières estimations. C'est très peu. Donc ça veut dire qu'il y a des conditions très particulières qui sont apparues sur Terre, qui ont permis... cet événement un peu magique.
Hein. Ouais. Alors, sauf qu'au début, vous décrivez l'état de la Terre, c'est absolument invivable. Hein.
Ah oui, oui, oui. Au début,
avant l'arrivée justement de ces premières cellules.
Ces premières cellules,
hein. Il n'y a pas d'eau d'ailleurs. Hein.
Au début, il y a de la vapeur d'eau.
Ouais.
Et puis tout d'un coup, la Terre s'est refroidie. Et à ce moment-là, il y a eu des pluies gigantesques et les océans sont formés.
Ouais. Alors, de formation, parce que justement, on suit toute l'évolution de la biologie avec vous dans ce livre. Et ce qui est formidable, finalement, avec un biologiste, c'est que tous les événements de la vie deviennent des sujets de réflexion. Par exemple, la grossesse de votre femme. Vous
oui,
en parlez dans l'ouvrage.
Dont
vous dites que c'est une période magique pour
oui,
vous.
Oui, j'ai trouvé, effectivement, parce que, d'abord, c'est très chaleureux, parce que c'est un peu quelque chose qu'on vit en couple à deux, hein. Comme, donc, bien, c'est la femme qui porte l'enfant, mais le père aussi, il se passe plein de choses. Et puis, il y a quand même la naissance, on sent cet enfant grandir dans le ventre de la femme. Et puis, on voit vaguement des formes apparaître. Et puis, on sait qu'à la fin, ça sera un être humain. Donc, c'est extraordinaire, quoi.
Ouais. Et c'est le prodige de la complexité, finalement, aussi.
Ouais, de la
complexité. Et de l'organisation.
Exactement.
Des cellules, justement.
On commence tous comme du plancton, hein, comme dit Colomb de Vargas. C'est-à-dire qu'on commence tous avec un œuf et un spermatozoïde. Et dans l'océan, les œufs et les spermatozoïdes et les embryons, c'est du plancton. Hein, on ne sait pas, mais la plupart de la fécondation, dans l'eau, beaucoup d'organismes, la fécondation se produit à l'extérieur, quoi, dans l'océan lui-même. Quoi.
Ouais.
Donc en fait, notre première existence, c'est une existence planctonique.
Oui, c'est ça. Et un enfant, quand il naît, il porte en plus en lui des milliards d'années d'évolution.
Ah ouais, ouais.
Hein, c'est ça.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on naît avec ce patrimoine-là? Cette mémoire, comment on
exactement.
Peut exprimer les choses?
Eh ben, en fait, il s'est passé plein de choses, si vous voulez, il s'est passé énormément. Bon, la vie a commencé avec des cellules assez simples. Pendant 2 milliards d'années, il y avait des bactéries hein, dans l'océan. Tout s'est passé dans l'océan hein, pendant très longtemps. Et à partir des bactéries, il y a des cellules plus complexes qui sont apparues. C'est les cellules eucaryotes qui sont comme nos cellules. Hein, parce que les cellules sont plus petites, les bactéries sont
Nous sommes des eucaryotes.
Simples. On est des eucaryotes.
Voilà.
Hein. Et ces cellules uniques, elles étaient toutes seules, elles vivaient toutes seules dans l'océan, comme ça, elles se sont complexifiées. Et il y a à peu près 500 millions d'années, il y a eu une explosion de complexification. Et c'est pendant cette période-là que tous les gènes qui sont nécessaires à former un être humain, ou une grosse partie, disons, pas tous, mais une grosse partie des gènes qui sont nécessaires à former un être humain, sont apparus.
Ouais.
Gènes essentiels, quoi. Dans l'océan, dans des cellules uniques. Hein, c'était les protistes, ce qu'on appelle les protistes. Ouais.
C'est les premiers animaux, finalement, à cette période.
Alors, c'est des animaux ou des algues. C'est les premiers.
Il y a des éponges.
Il y a des éponges, voilà. Il y a des petites cellules qu'on appelle des coanoflagellés, qui sont à l'origine des éponges, qui ressemblent un peu à des spermatozoïdes, d'ailleurs, qui ont un flagelle et puis une corolle. Et donc, tout a commencé comme ça. Et puis finalement, à partir de ces coanoflagellés, des organismes multicellulaires sont apparus. Et puis tout s'est complexifié. Alors justement, c'est une des grandes questions.
Pourquoi ça a explosé alors il y a 500 millions d'années? Vous parlez d'une explosion qui a donné naissance à cette complexité.
On ne sait pas trop. Une des raisons invoquées, c'est que il y a à peu près 500 ou 800 millions d'années, justement, les protistes aussi, on séquestrait le gaz carbonique et on fabriquait beaucoup d'oxygène. La concentration d'oxygène a augmenté dans l'atmosphère et dans l'océan jusqu'à 20%. Et donc, ça peut-être cet oxygène a permis a fourni beaucoup d'énergie et la photosynthèse aussi donné énormément d'énergie au système qui a permis la complexification. La complexité, c'est entièrement dépendant de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour faire des choses complexes.
Alors, on le disait tout à l'heure, on croise aussi dans cet ouvrage de grandes figures de la science. Et vous évoquiez les spermatozoïdes, justement. On fait connaissance avec l'homme qui, le premier, a vu un animalcule. Hein, c'est comme ça qu'il le nommait à l'époque, animalcule, c'est amusant.
Ouais.
Et donc, il a vu ça parce que c'était au XVIIe siècle.
Ouais.
C'est Antonin von Leeuwenhoek. Donc, il avait déjà des microscopes à l'époque.
Oui, il avait déjà des microscopes. Et lui, la façon dont il décrit ça, c'est, je sais pas si je le décris.
Allez-y, oui.
C'est... C'est assez amusant parce qu'il décrit ça à la Société Royale de Londres, scientifique de Londres.
Ouais.
Et puis, il a observé un résidu, comme il dit, de coït. Et il a vu dedans des animalcules, etc. Et c'est comme ça qu'il a découvert les premiers spermatozoïdes. Il était un peu embarrassé de décrire ça devant ses pairs. Donc, il leur a demandé s'il pouvait effectivement le publier. Mais c'est une anecdote assez amusante.
Ouais. Et c'est lui aussi qui voit les premières cellules vivantes,
justement. Les premières cellules, c'était un début
incroyable.
Ouais.
Est-ce qu'il a réalisé d'ailleurs ce qu'il voyait au fond?
Je sais. En fait, c'est difficile. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas. Oui, je pense. Hein. Je pense qu'il savait que c'était important, quoi. Et puis très vite, on s'est aperçu que c'était la base de la vie, quoi. La cellule, sans cellule, il n'y a pas de vie. Hein.
Ouais. Éric Carcentier, justement, vous évoquez beaucoup la technologie aussi, et le microscope en particulier, parce qu'on a pu faire autant de bons en avant dans la biologie cellulaire, grâce au microscope, évidemment.
Ouais.
Hein, les technologies ont tout bouleversé.
Absolument, oui.
Ouais.
Bon, ça remonte déjà à Zeiss, le premier, j'en parle dans le livre, Zeiss était un des premiers ingénieurs qui a fait des microscopes modernes, quoi. C'est assez performant. Et c'est très intéressant parce que le progrès du microscope, c'était lié à une collaboration entre Zeiss et comment il s'appelle un autre ingénieur qui faisait des verres très particuliers.
Ouais.
Et c'est donc une collaboration entre un chimiste et un physicien finalement qui a conduit à la création des premiers microscopes. Et puis moi, j'ai fait la même expérience. On a fait à l'EMBL, on a beaucoup développé des microscopes très performants.
Mmh.
Et effectivement, à chaque fois qu'on fait un nouveau microscope, on voit des choses qu'on voyait pas avant.
Alors l'EMBL, justement, c'est ce centre laboratoire européen de biologie moléculaire. D'ailleurs, il y a des entités un petit peu partout en Europe, évidemment.
Ouais.
Et vous avez justement été un directeur d'un des centres à Heidelberg.
D'une unité de biologie cellulaire et de biophysique à Heidelberg.
Ouais. Qu'est-ce qu'on y fait d'ailleurs dans ce centre européen? Parce que l'idée au départ, c'était de concurrencer les Américains, c'est ça?
Oui, en fait, au départ, le MBL a été créé à la suite, en fait, à partir de Léo Szilard. C'était un physicien qui avait participé au nucléaire au CERN. Donc c'est parti du CERN, hein, du labo de physique européen. Et à l'époque, l'Europe était très en retard sur l'Amérique, en biologie moléculaire en particulier. Et donc l'idée, c'était de créer un laboratoire international, financé par différents pays européens, pour pouvoir concurrencer les Américains.
Ouais. Éric Carcentier, vous nous emmenez aux sources de la vie, et on poursuit le voyage avec vous dans un instant avec les messages des auditeurs.
Je suis devenu ce que je redoutais. mais je m'en suis aperçu qu'une fois le mal déjà fait. C'est même soigneusement souligné. Je suis devenu tout ce qui a pu se passer. Des souvenirs perdus ou complètement déformés. Je me suis fait tout seul et je me suis raté. J'ai dû trop souvent être seul ou je n'ai pas été assez bien conseillé. Je sais qui j'étais, je sais qui je ne suis plus, je sais ce que je faisais.
Je suis venu, et c'est l'extrait de son dernier album, Mieux sec à l'instant.
La tête au carré, sur France Inter.
Il y a dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réunis. Cette substance, les Anglais l'appellent le DNA. Les Français, l'ADN, et les chimistes d'un nom un peu barbare, l'acide désoxyribonucléique. Suivant le point de vue auquel on se place, c'est une substance chimique inerte ou c'est déjà de la matière vivante. Quoi qu'il en soit, tout le mystère de la vie se trouve à l'intérieur de ces substances. Et ce flacon est un peu une boîte de Pandore.
C'est drôle de réécouter les archives. Hein. 1962, Eric Carcenti, puisqu'on parle de la source de la vie, des sources de la vie avec vous cet après-midi. Et donc, cette archive autour de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, on se pose encore plein de questions.
Ah oui, exactement.
Ouais. Où en est la science, d'ailleurs, à ce moment-là, dans les années 60, juste avant le Nobel, là, précisément, autour de l'ADN?
On connaissait déjà beaucoup de choses. Hein. On connaissait comment l'ADN était utilisé pour faire des protéines, pour faire ce qui est nécessaire à fabriquer des cellules. Donc on connaissait déjà beaucoup de choses à cette époque-là.
Ouais. Autour de l'hérédité
Bien sûr. On savait la connexion qu'il y avait entre l'ADN et, j'en parle beaucoup dans le livre d'ailleurs, comment les liens ont été établis entre l'ADN, les chromosomes et l'hérédité.
Ouais. C'est assez amusant. Il y a toute cette saga. Hein.
Voilà, toute cette saga. Et en fait, moi, en écrivant le livre, j'ai relu beaucoup toute cette histoire et j'ai redécouvert un petit peu toutes les fils. En fait, c'est marrant, c'est un peu comme un roman policier où chaque chercheur a établi quelque chose et puis ensuite les choses se sont mises ensemble.
Il y a Mendel par exemple qui était aussi un personnage, alors avant évidemment les années 60, hein, puisque là on est au 19e siècle avec Mendel, moine d'ailleurs au départ, et puis passionné de sciences naturelles, et il fait des découvertes justement cruciales autour de la cellule vivante précisément.
Hein. Exactement, et ben il découvre comment les caractères morphologiques des petits pois sont transmis de génération en génération par ce qu'il appelait des particules qui sont en fait les gènes.
Donc il invente la génétique.
Il a inventé la génétique carrément. Et c'est marrant parce que il n'était pas Ça n'a pas été reconnu tout de suite, sa découverte.
Plutôt ignoré de ses contemporains, Mandel, c'est ça ? Et c'est venu après, finalement ?
Ouais, je ne me rappelle plus combien de temps après, je l'écris dans le livre, mais je ne me rappelle plus du temps. Mais une dizaine d'années après, je crois, ses découvertes ont été redécouvertes quoi, par trois chercheurs.
Ouais. Donc il faut retisser les fils, évidemment. Voilà. Et puisqu'on est dans l'ADN, tiens, on va poursuivre un petit peu le récit, parce que vous parlez d'une photo absolument historique, qui s'appelle la photographie 51. Mm-hmm. Racontez-nous justement l'histoire de ce cliché qui a tout changé, finalement.
Bah oui, c'est un cliché qui a été pris par une femme, comment elle s'appelle ?
Rosaline Franklin.
Et puis en fait, apparemment, elle a pas tout de suite compris ce qu'elle voyait.
Sur ce cliché, hein.
Et puis il y avait Watson, ce jeune américain qui avait vu cette photo qui lui a été montrée.
Ouais.
Et qui lui était tout de suite absolument fasciné par la régularité c'est une radiographie en fait de la molécule, et qui avec Crick a publié le premier. Donc c'est triste pour Rosaline parce que
elle a été oubliée des Nobel.
Elle a été oubliée des Nobel, évidemment. Et puis pas beaucoup de monde la connaît alors que tout le monde connaît Watson et Crick.
Et donc elle n'était pas présente à Stockholm, la remise des Nobel donc en 62.
Le 10 décembre 1962 à Stockholm, cinq physiciens et chimistes recevaient collectivement dans le faste et la pompe le prix Nobel des mains du roi de Suède. Ils s'appellent Crick, Watson, Wilkins, Perutz, Kendrew. Trois de ces chimistes et physiciens recevaient non pas un prix de chimie ou de physique, comme il serait logique de le penser, mais de médecine. Objet de leurs travaux, la structure du DNA. Mais quel rapport y a-t-il donc entre la physique, la chimie et la vie?
Voilà, les trompettes royales, hein, Eric Carcenti, autour de l'ADN. Et donc, effectivement, ce nom de Rosaline Franklin, que vous permettez aussi de remettre sur le devant de la scène.
Oui, j'en ai parlé parce que
elle a joué un rôle important. Ouais. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup oublié. Alors, cette forme en double hélice, ça, c'est très, très beau aussi.
Elle est très belle, cette molécule. Hein. Ouais. C'est une molécule magnifique,
Donc, c'est ce qui a été découvert à ce moment-là et qui a beaucoup changé aussi, justement, l'évolution de la biologie à ce moment-là.
Bah oui, parce que, en fait, ça a beaucoup changé. Ça a eu deux effets. D'abord, ça a eu un effet très positif parce que c'est le fait de connaître la structure de cette molécule, ça a permis de comprendre comment l'information était transmise comme une photocopie, puisqu'elle a une forme qui lui permet de se dupliquer. Ouais. Et puis aussi, ça a permis de comprendre le code génétique. C'est-à-dire, c'était le début, on s'est aperçu qu'il devait y avoir un code, parce qu'il y avait des bases qui étaient organisées d'une façon un peu particulière, des bases, les gens ne savent pas trop, mais des molécules empilées les unes dans les autres qui donnent sa forme à l'ADN. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à découvrir le code génétique.
Éric Carcenti, Jean-Paul sur franceinter.fr, une question pour vous. Il aimerait savoir quelles sont les différences entre les cellules végétales et animales.
Oui.
Allez, cours de bio.
Les cellules végétales, en fait, sont un peu autonomes, c'est-à-dire qu'elles utilisent l'énergie solaire, la photosynthèse, donc la lumière du soleil, pour fabriquer avec des sels minéraux leur propre matière et produire de l'oxygène. Les cellules animales peuvent pas faire ça parce qu'elles ont pas justement de chloroplastes qui permettent la photosynthèse. Elles peuvent pas faire de photosynthèse. Donc elles sont obligées de se nourrir. Donc elles se nourrissent, soit directement en mangeant, pour les petites cellules qui vivent tout seules, soit comme nous, par exemple, nos cellules, on est obligé de manger parce que on n'a pas de chloroplastes, on n'est pas vert.
Ouais.
On n'est pas des petits hommes verts.
Non.
Mais en fait, c'est assez amusant parce que j'en parle dans le livre, il y a des salamandres. Qui ont des chloroplastes dans certaines de leurs cellules et qui sont capables de faire donc de faire de la photosynthèse.
Mais
donc,
ça c'est très rare
dans
le règne animal quand même.
Ouais, hein.
Donc nous on a inventé la prédation par contre.
La prédation voilà.
Et ça vous en parlez aussi beaucoup. Hein.
On est obligé de manger, d'attraper d'autres.
Et ça joue un rôle essentiel dans l'évolution aussi.
Ça joue un rôle capital. Bah surtout au niveau des cellules, certes dans l'océan avant que les organismes multicellulaires apparaissent, la prédation a commencé par les cellules animales qui avaient pas de chloroplastes, qui vivaient toutes seules dans l'océan, mais qui étaient obligées de manger les autres, c'est-à-dire qu'elles mangeaient les cellules qui avaient des chloroplastes, comme nous on mange les plantes.
Mmh.
Donc en faisant ça, il y a des phénomènes de symbiose qui se sont mis en place. Et il y a eu plein d'interactions avec différents types de cellules, et c'est probablement ça qui est à l'origine, en partie, de la complexification du vivant.
La symbiose, c'est quoi ? C'est l'interdépendance entre deux espèces distinctes,
c'est
par
ça.
Exemple ?
C'est ça. Par exemple, dans le corail, corail a besoin d'une algue photosynthétique. Quand le corail blanchit, c'est que là, par exemple avec l'augmentation de la température, il rejette cette algue photosynthétique et si la température reste haute trop longtemps, l'algue revient pas et il meurt. Donc il peut vivre pendant un certain temps sans cette algue, mais il a besoin de l'algue vraiment pour vivre. Donc ça, c'est une symbiose. Ouais. Nous, on vit en symbiose avec des bactéries dans notre intestin.
Oui, c'est ça. On habite presque chez les bactéries, d'ailleurs. Voilà, on a qui est chez qui, on peut se poser la question. La symbiose, c'est toujours entre deux espèces ou ça peut être entre plusieurs espèces?
Ça peut être plusieurs. Hein. Ouais. Ouais, ça peut être des systèmes très compliqués.
Et une autre question de Rihanna qui nous dit, est-ce que vous pourriez nous expliquer le processus pendant lequel les cellules pluripotentes commencent à se spécifier? Alors, il faut décrypter là justement pour nous tous. Hein. Des cellules pluripotentes, c'est quoi déjà?
Ben, les cellules pluripotentes, c'est des cellules qui sont pas en qui sont pas différenciées, c'est-à-dire qui n'ont pas de fonction particulière. Mmh. On est composé d'à peu près 200 cellules.
C'est de la cellule neutre, on pourrait dire.
Originaire, ouais. Originelle un peu. Ouais. C'est la cellule qui dérive de l'œuf, très proche, et qui est pas spécifiée. C'est-à-dire qu'on a 200 types cellulaires, on a des neurones, des cellules de foie, des cellules intestinales, tout ça. Et au cours du développement embryonnaire, il y a des périodes où les cellules, tout à fait au début, les cellules sont capables de faire n'importe quelle cellule.
Ouais.
Et progressivement, pendant que l'embryon se développe,
elles vont se spécifier.
Elles se spécifient parce qu'il y a des contraintes locales.
Et c'est ce qui va fabriquer nos organes, par exemple.
C'est ce qui fabrique nos organes. Ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a des cellules qui ont des formes très variées, alors qu'elles ont toutes le même génome.
Ouais.
Donc ça pose une question intéressante.
Et alors justement, ce processus, au moment de cette différenciation, là, qu'est-ce qui se passe pour que précisément il y ait cette dynamique?
Ce qui se passe, c'est que le génome reste le même, mais par contre, il est modifié. Enfin, la séquence d'acide nucléique reste la même, mais par contre, les chromosomes sont modifiés. Ils sont modifiés par des phénomènes de régulation assez compliqués, qui font que la cellule ne peut plus exprimer tous les gènes qu'elle exprimait au début, ou se met à en exprimer d'autres. Donc, elle change. Son activité génétique change.
Éric Carcenti, vous êtes notre invité. On poursuit la discussion dans un instant avec d'autres messages pour vous sur le site de La Tête au Carré.
Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi, il est terrible. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con.
Serge Gainsbourg, bien sûr, à l'instant.
La tête au carré. L'histoire naturelle de ces îles est éminemment curieuse et mérite la plus grande attention. La plupart des productions organiques sont essentiellement indigènes et on ne les trouve nulle part ailleurs.
on remarque même des différences entre les habitants de ces diverses îles. Tous ces organismes, cependant, ont un degré de parenté plus ou moins marqué avec ceux de l'Amérique, bien que l'archipel soit séparé du continent par 500 ou 600 milles d'océan. Cet archipel, en un mot, forme un petit monde à lui seul, ou plutôt un satellite attaché à l'Amérique, d'où il a tiré quelques habitants et d'où provient le caractère général de ses productions indigènes. On est porté à croire, en voyant chaque colline couronnée de son cratère et les limites de chaque coulée de lave encore parfaitement distinctes, qu'à une époque géologiquement récente, l'océan s'étendait là où elle se trouve aujourd'hui. Ainsi donc, et dans le temps et dans l'espace, nous nous trouvons face à face avec ce grand fait, ce mystère des mystères, la première apparition de nouveaux êtres sur la Terre.
Voilà, les Galapagos, voyage d'un naturaliste autour du monde avec la voix de Stéphanie Duncan, Charles Darwin, évidemment, Eric Carcenti, à bord de son navire, hein, entre 1831 et 1836, ce grand voyage qui vous a beaucoup inspiré d'ailleurs, hein.
Oui,
c'est
oui,
votre pote Darwin, hein, et le Beagle en particulier, vous qui aimez tant la voile.
Oui, ouais. Ouais, ben, c'est le livre de Darwin sur son voyage de 5 ans, hein, autour du monde. Là.
Ouais.
J'ai trouvé ça super parce que il y a ce mélange d'aventure, parce qu'il raconte quand il part sur Terre, il se fait pourchasser par les Indiens en Amérique du Sud avec les gauchos et tout. Et puis en même temps, il raconte des choses comme ça. C'est-à-dire ce qu'il a observé qui l'a amené à la théorie de l'évolution. Donc c'est un mélange de voyage et de science, quoi.
Ouais. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que là, on a vraiment une observation de la partie terrestre. Il a été sur les eaux des océans pendant donc 5 ans. Hein. Et finalement, la partie océanique en elle-même, il est passé à côté presque.
Complètement.
Hein.
Bah, le problème, c'est qu'il avait un mal de mer épouvantable. Ouais. Et donc, quand il était sur le bateau, il n'était pas très bien.
Donc, il a beaucoup nourri la mer.
Il a quand même fait des observations sur la mer intéressantes. Ouais. Mais il a vu qu'il y avait des petits organismes au microscope quand même dans l'eau, mais il n'a pas fait grand chose. Par contre, toutes ces observations terrestres ont été fabuleuses, quoi. Et puis, quand même les coraux, l'histoire des coraux, c'est intéressant.
Ça. Ouais. Alors cette histoire de Darwin et du Beagle, ça vous a vraiment inspiré pour le coup?
Oui, et du coup, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire l'expédition Tara Océan. Enfin, au début, j'avais pensé, quand j'ai lu le livre, j'ai lu le livre en 95. Et j'avais envie de refaire le voyage pour moi en fait avec mon propre bateau. Et puis j'étais occupé, j'ai travaillé.
5 ans, c'était trop long.
C'est trop long, on pouvait pas faire ça. Jeune, on pouvait pas le faire. Donc j'ai oublié. Hein, puis j'ai travaillé. Et puis ça m'est revenu en 2000. Et c'est là que j'ai pensé à refaire. J'en ai parlé à des amis qui m'ont dit mais oui, faut essayer de faire ça. Mais je pensais surtout faire une expédition médiatique un peu, c'est-à-dire pour faire de la vulgarisation scientifique, justement, qu'on est en train de faire en ce moment. Et puis bon, ça n'a jamais marché. Donc finalement, j'ai réussi à rentrer en contact avec la famille troublée Tara. Et puis j'ai décidé de faire une vraie expédition scientifique. Et c'est comme ça que Tara Océan a commencé.
Et c'était en 2009.
Cinq marins, cinq scientifiques et des visiteurs triés sur le volet. Le rôle d'équipage de Tara est complet. La grande goélette reprend sa quête pour la collecte de données scientifiques. Le bateau a été transformé en laboratoire flottant. Le projet Tara Océan suit en partie les traces de Darwin et de son voyage sur le Beagle. Cette fois, ce sont les micro-organismes marins, mal connus des scientifiques, qui seront auscultés, répertoriés et modélisés. Le bateau est maintenant équipé de prises d'eau, d'appareils de filtration et d'observation. Une petite partie des données sera traitée sur place. Le reste sera réparti sur une cinquantaine de laboratoires où physiciens, biologistes, chimistes ou océanographes mettront en commun leurs résultats. Une énorme masse d'informations constituant une base de données pour les générations futures.
Voilà, ça vous amuse de réentendre ce sujet avec Carcenti.
Ouais.
2009, donc c'était 2009, le démarrage. Ça a été long quand même à mettre en place, c'était très ambitieux.
Ouais.
Il y avait effectivement le souhait de revenir dans cette espèce de longue tradition des explorations naturalistes. Mm-hmm. Mais il fallait trouver les moyens quand même. Hein.
Oui, c'était compliqué. Oui. On a trouvé les moyens au fur et à mesure. On a monté ça un peu avec des bouts de ficelle et puis finalement, ça a très bien marché. Et effectivement, on a trouvé des quantités de choses nouvelles vraiment fabuleuses. Quoi.
Ah bah, vous êtes même très modeste parce que vous avez quand même révélé, on peut le dire comme ça la diversité du vivant, hein, tout simplement.
En, hein. Enfin, en tout cas, dans l'océan.
Dans l'océan, mais c'est pas rien.
Non, c'est pas rien. En surface, dans l'océan, en surface. Ouais. Mais c'est, oui, c'est considérable. Et puis, ça m'a, bon, moi, ça m'a, j'étais très surpris, en fait, du nombre. On a trouvé un grand nombre d'espèces, bien sûr, de, surtout des eucaryotes, donc ces fameuses cellules comme nous, hein. Et 150 000 genres, ça fait probablement quelques millions d'espèces d'eucaryotes. Et surtout, un nombre de gènes considérable. On a trouvé 47 millions de gènes bactériens.
Qu'on ne connaissait pas?
La moitié, ou ouais. entre 30 et 50%, on connaissait. Et puis, 115 millions, quelque chose comme 113 millions de gènes eucaryotes. Ce qui est colossal. Et là, c'est là, on en connaît 20%, 30%.
Mais comment on fait pour analyser une telle masse de données, justement?
Ben justement, ça, c'est une chose qu'on n'aurait pas pu faire, en fait, au début de Tara-Océan. Le séquençage n'était pas suffisamment performant et trop cher.
Donc, c'était il n'y a même pas 10 ans. Hein.
C'est même pas 10
ans. C'est incroyable, quand même.
Ça a beaucoup
même, hein.
changé. Ouais. C'est-à-dire que, pendant, en fait, dans les 2-3 ans qui ont suivi, dans les 2 ans qui ont suivi le départ de l'expédition, c'est devenu possible grâce au séquençage, mais aussi au progrès de l'informatique et du stockage des données, ouais. de l'analyse.
Donc maintenant, ce sont des algorithmes qui analysent
voilà,
tout ça.
Voilà, voilà. Donc on peut faire des analyses, c'est dingue, quoi. C'est, ouais. Ça a complètement changé. Mais.
Donc vous avez permis ce catalogue ouais. quasiment exhaustif, finalement, de la diversité des organismes marins. Mm-hmm. C'est ça, hein?
Oui, c'est pas exhaustif, mais on voit, disons que pour la première fois, on voit à peu près les bornes, si vous voulez, de la diversité, quoi, génétique et des organismes. Ouais. Donc ça, c'est assez considérable. Ouais. Alors maintenant, il reste à comprendre finalement comment toute cette complexité. Pour faire une bactérie, pour faire une bactérie qui fonctionne, on a besoin de 500 gènes. Un être humain, c'est composé de 20 000 gènes. Et là, il y en a des millions dans l'océan. Donc
vous qui aimez la complexité, ben vous êtes gâtés.
Voilà, on est gâtés.
Vous avez de quoi faire pour plusieurs vies, hein, parce que c'est incroyable le travail qu'il y a à faire. Ouais. Boukhari, sur le site de l'émission, nous demande ceci. On parle beaucoup du génome de la cellule, mais très peu de la mitochondrie, qui pourtant est un véritable cœur énergétique de la cellule.
Oui.
Alors la mitochondrie, c'est quoi? C'est la petite usine, quoi.
Hein. La mitochondrie, c'est la petite usine qui fabrique le pétrole de la cellule, l'ATP, qui est le pétrole de la cellule. Et en fait, la mitochondrie, c'est l'ancêtre de la mitochondrie. C'est une histoire de symbiose encore. C'est une bactérie. Hein, donc, on a pu montrer ça avec la génétique encore.
Mm-hmm. Une bactérie donc qui s'est transformée.
On pense que justement, comme on en parlait tout à l'heure, avec ces histoires de prédation dans les cellules, les organismes unicellulaires, il y a probablement une cellule à un moment donné qui a engouffré une bactérie, ce type de bactérie, et au lieu de la digérer, la bactérie est restée et s'est mise à fonctionner en symbiose avec le.
Et donc à fabriquer de l'énergie.
Qui fabrique de l'énergie, voilà. Ouais. La bactérie, elle fabrique de l'énergie parce qu'elles en ont besoin de toute façon pour fonctionner. Et donc celle-là, c'est spécialisée dans la cellule pour fabriquer de l'énergie de la cellule. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu des échanges génétiques entre la bactérie et le noyau de la cellule. Donc il y a vraiment... ça, c'est tout le secret, à mon avis, de la complexification du vivant. C'est les interactions entre les organismes.
Ouais. Donc des allers-retours permanents.
Des allers-retours permanents.
C'est ça dont il s'agit. Et cette symbiose, effectivement. Ouais. La mitochondrie, ça prend quelle place dans un noyau de cellule, en fait?
C'est pas dans le noyau, c'est dans le cytoplasme. Enfin, dans une cellule, il y a la membrane. Le noyau dans nos cellules, hein, noyau au milieu, et puis dans le cytoplasme, ce qu'on appelle le cytoplasme, qui est un liquide, hein, qui contient plein de choses, il y a les mitochondries.
Donc c'est l'extérieur du noyau?
C'est à l'extérieur du noyau. La mitochondrie est à l'extérieur du noyau.
D'autres questions pour vous sur franceinter.fr, Eric Carsenti. Quand la photosynthèse, justement, a-t-elle commencé?
La photosynthèse a commencé il y a environ 2 milliards d'années, dans des bactéries, justement, aussi. Et c'est ces fameuses bactéries, certaines de ces bactéries, qui sont aussi devenues les chloroplastes des plantes. Hein. Donc la photosynthèse a commencé, c'est à ce moment-là qu'il y a des réseaux de gènes qui se sont mis ensemble, qui ont permis d'utiliser la lumière du soleil pour...
On peut dire que c'est une innovation majeure dans le vivant.
Ah oui,
hein.
C'était absolument majeur.
Ça a été vraiment un épisode extrêmement important. Hein.
Sans ça, la Terre ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y aurait pas les plantes, il n'y aurait pas de verdure.
Jean-Pierre nous dit, certaines cellules peuvent être fonctionnelles tout en étant mortes. C'est le cas par exemple des vaisseaux qui transportent la sève brute chez les plantes à fleurs par exemple. Ah bon?
Oui.
Alors expliquez-nous.
C'est pour ça. Quand je dis des cellules vivantes, c'est pas bête.
Là, ça justifie finalement que vous employez ce terme de vivant.
Mais
pourquoi elles peuvent être mortes?
Elles peuvent être mortes parce qu'en fait, pendant leur vie, elles fabriquent des structures qui en fait font des tubes. Donc ensuite, elles ont plus besoin d'être vivantes. Tout ce qui est vivant dans la cellule disparaît. Mais ce qui a été fabriqué par la cellule, la lignine en particulier, fabrique des vaisseaux et donc qui permettent donc de transporter des choses. Donc ça sert. C'est un exemple où justement des cellules ont servi la collectivité en disparaissant, quoi.
Ouais. Donc c'est l'abnégation absolue. Qu'est-ce que c'est beau, magnifique. L'étude du développement justement des embryons, vous le racontez, hein, ça a été plein de contradictions.
Ouais.
Et c'est pour aussi dire que le chemin de la science, il est aussi semé d'embûches et que parfois, bah, on arrive à des résultats sans qu'on les ait forcément.
Absolument. Ouais.
Imaginer, penser.
C'est important ça, parce que bon, il y a beaucoup de discussions en ce moment souvent sur l'intégrité des scientifiques, les choses comme ça. Bon. Moi, je trouve qu'il y a, si vous voulez, la science, c'est une série d'erreurs. C'est-à-dire que on cherche. Tous les scientifiques savent ça. Quand on travaille sur un domaine inconnu, ben on se perd. Hein, comme quand on va dans une forêt qu'on connaît pas, on navigue, ou sur l'océan, quand on navigue à l'estime, de temps en temps, il y en a qui se perdent.
C'est ça. Ouais.
Et ben, c'est un peu la même chose, parce qu'au début, beaucoup de gens font l'équivalence entre science et technologie. La technologie, c'est quand on sait déjà. Mais la science, ben, on sait pas. Donc, de temps en temps, on se perd, et c'est l'intuition qui permet de naviguer.
Ouais. Et aller au pif, c'est pas mal non plus.
Voilà. Hein, voilà. Un peu de pif.
Ouais. C'est ce que vous préconisez.
Voilà, exactement.
Éric Carcentier. Et c'est bien, on aime bien ça aussi, même si vous le dites, hein, beaucoup de scientifiques refusent de reconnaître l'importance de l'intuition. C'est pas toujours forcément très confortable.
Ouais.
En tout cas, vous racontez tout cela, la vie de ces grands personnages, votre parcours aussi, et puis évidemment, cette biologie aux sources de la vie. C'est sorti hier, et cet ouvrage paraît aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Éric Carcentier.
Merci beaucoup.
D'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci. La tête au carré.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Bonjour David Amiel.
Bonjour.
Dans le documentaire de ce soir, nous allons voir le Titanic comme jamais auparavant. On va démanteler la carcasse de l'épave pour comprendre ce qui s'est passé le soir de cette fameuse nuit du 14 avril 1912.
Alors oui, le naufrage de ce mythique paquebot est l'un des événements les plus marquants du début du XXe siècle. Alors, beaucoup a été déjà dit sur ce drame, mais il reste encore pas mal de points à éclaircir. Et donc, à l'aide des images de synthèse, on va essayer d'avoir un bon aperçu de ce à quoi ressemble l'épave aujourd'hui en la reconstituant intégralement pour pouvoir mieux l'exploser. Et alors, la principale difficulté, c'est qu'en fait, en s'écrasant sur le plancher océanique, celui-ci cache en fait la trace de la collision directe avec l'iceberg.
Alors, c'est très difficile d'expliquer comment un simple bloc de glace soit venu à bout de ce paquebot, qui était pourtant réputé comme insubmersible à l'époque.
Oui, c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec Claude Daly, le scientifique qui est l'un des plus grands spécialistes en conception de navires polaires. Alors, dans son laboratoire, il mène plusieurs expérimentations pour mesurer l'impact de la glace et les dommages causés sur des tôles d'acier semblables à celles du Titanic.
Alors, il y a deux suspects d'ailleurs, deux icebergs qui ont été pris en photo sur les lieux du naufrage.
Exactement. Et même à l'aide d'un simulateur de navigation, donc une sorte de jeu de pilotage de Titanic, le capitaine Hearn va essayer de mettre en scène ces deux suspects et reconstituer le déroulement officiel des faits, vraiment comme si on y était.
Et on écoute un extrait.
La priorité, c'est de faire dévier la proue du navire pour qu'elle évite l'iceberg. Donc, on vire à bâbord toute.
La proue échappe à la collision. Mais la poupe poursuit sa course en direction de l'iceberg. L'équipage oriente donc de nouveau la proue vers l'iceberg afin que ce changement de cap permette à la poupe d'éviter l'obstacle. Mais avant que le paquebot n'ait pu se déporter, sa coque vient frotter contre l'iceberg.
Là, ça y est. L'iceberg est juste sous le flanc tribord. On le longe en ce moment.
Le capitaine Hearn est convaincu que c'est exactement la manière dont le Titanic a heurté l'iceberg.
Voilà, et cette manœuvre, David, montre que le contact de la coque avec la glace a créé donc une longue brèche et que l'eau s'est engouffrée dans plusieurs compartiments.
Alors oui, exactement. Les experts démontrent clairement que l'angle de collision a favorisé l'ouverture de cette longue brèche. Et si le Titanic avait heurté l'iceberg de face, cela aurait été vraiment une toute autre histoire.
Et le bilan des dommages et des victimes aurait été beaucoup moins important et désastreux, a priori. Alors,
c'est bien possible. Le bon côté, c'est que par la suite, après cette catastrophe, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire les risques de naufrage, comme le nombre de canaux obligatoires sur les bateaux. Et il existe par exemple maintenant une patrouille en hélicoptère même qui surveille de très près les mouvements des icebergs au large de Terre-Neuve.
Ça s'appelle Titanic Autopsie, donc d'un naufrage. Ce sera ce soir à 20h50 sur France 5. Et d'ailleurs, il y aura un second documentaire toujours consacré au Titanic juste après.
Exactement. Dans celui-ci, on va, à l'aide de photos d'archives qu'on va animer vraiment pour leur donner vie, essayer de mieux comprendre la vie, le quotidien des passagers au sein du Titanic.
Merci David et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Un Ainsi s'achève notre Tête au carré. Merci à Loïc Frapsos. N'oubliez pas que le 6 novembre prochain, nous avons rendez-vous ensemble pour le premier rendez-vous justement de notre cycle consacré au cerveau avec le neurologue Lionel Nakache. Il y aura 3 rendez-vous dans l'année. Rendez-vous exceptionnel du studio 104 de la Maison de la Radio, également dans 100 cinémas en France. Le cerveau, pour tout savoir sur la mémoire, ce sera le premier rendez-vous. Si vous souhaitez y participer et nous rejoindre où que vous soyez en France dans les salles de cinéma, vous pouvez réserver dès maintenant en vous rendant sur le site de la Maison de la Radio. Rendez-vous le 6 novembre donc pour parler cerveau et mémoire avec Lionel Nakache.